Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Le Royaume-Uni s'apprête à dire au revoir à l'Union Européenne et nous, à Accent d'Europe, on vous dit bonjour depuis Londres. RFI a installé son studio à l'Institut français. Merci à eux de nous accueillir. Et bonjour à Philippe Marlière qui nous accompagne pour cette émission en direct de la capitale britannique. Philippe Marlière, vous êtes professeur de sciences politiques à UCL. C'est l'université de Londres, UCL. À 23h, heure locale, tout change. Le Royaume-Uni quitte l'UE, rien ne change. C'est une période de transition qui va commencer pour 11 mois au moins. S'il y a une certitude, Philippe Marlière, aujourd'hui, c'est que quand on vote, ça peut vraiment changer les choses, finalement.
Oui, effectivement, il y a eu un vote il y a 3 ans et demi. Maintenant, le référendum où les Britanniques, dans une majorité assez claire, ont décidé de quitter l'Union européenne. Ça n'a pas été facile de se mettre d'accord sur la partie qui, finalement, est la plus facile, qui est se mettre d'accord sur les modalités de sortie. Nous y voici, nous sortons donc ce soir, le Royaume-Uni sort. Mais maintenant, le plus dur commence. Donc, tout change pour rien ne change, parce qu'effectivement, il reste à voir quelles vont être, à partir de maintenant, les relations économiques, dans le domaine de la diplomatie, etc., de la défense, de l'immigration, que vont pouvoir nouer le Royaume-Uni avec l'Union européenne.
Alors, 3 ans et demi de débats, des querelles politiques sans fin, des impasses, des gouvernements qui tombent, des élections. Il va falloir se réconcilier maintenant. Frédéric Lebel est allé à Peterborough, c'est dans le Cambridgeshire. C'est une région qui a voté pour rester dans l'Union européenne, mais la ville, elle a voté pour le Brexit à 60%. C'est dire si les divisions sont profondes. Alors, malgré les appels des Brexiteurs pour que les cloches sonnent ce soir, les églises et la très belle cathédrale qui est le joyau de la ville, elles, vont rester silencieuses. C'est un peu de calme pour préparer l'après-Brexit.
Les orgues, Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-André, il faudra bien tout cela pour passer à l'après-Brexit. 3 années traumatiques, si l'on en croit le révérend Tim Alban Jones, qui convoque spontanément des images de guerre civile.
Évidemment, il n'y a pas eu de bain de sang, de bataille, et on n'en est pas venu aux mains, mais il y avait des opinions très très marquées dans chaque camp, et il semblait impossible de les rapprocher. Le Brexit a fait de nombreuses irruptions dans nos sermons, mais jamais on a dit « vous devriez voter ci » ou « vous devriez voter ça ». Je crois qu'on a toujours essayé d'expliquer que chacun a le droit d'avoir son opinion, mais l'important c'est d'arriver à être en désaccord avec son voisin de manière intelligente.
Ne pas prendre parti pour la sortie officielle de l'Europe, l'Église anglicane l'a une nouvelle fois répété, pas question de sonner les cloches le 31 janvier et de rallumer les passions, ce qui pour l'aumônier ne veut pas dire être apolitique.
Je crois que religion et politique ont toujours entretenu des rapports étroits. Appeler Jésus notre Seigneur, pour les premiers chrétiens, c'était un acte politique, c'était une manière de rejeter l'autorité de l'Empire romain.
À une centaine de mètres de la cathédrale, l'église Saint-Jean-Baptiste, tous les mercredis et les samedis, entre crucifix et bénitier, on peut venir y boire un café, une autre particularité britannique. Jonathan a 26 ans et affiche une immense sagesse malgré son jeune âge.
J'ai des amis qui étaient pour la sortie, d'autres pour rester dans l'Europe. Mais j'ai été choqué de voir à quel point ils étaient mal informés, à quel point ils étaient incapables de se mettre d'accord. Pour moi, c'est fou. C'est tout le problème, cette incapacité à se réconcilier, ce qui est pourtant le fondement de la démocratie.
Parmi les paroissiennes, Wendy, 76 ans, fait partie des 60,9% qui ont voté localement pour la sortie de l'Europe, une militante pro-Brexit, européenne à sa façon.
J'ai voté en 73 pour rejoindre le marché commun. Je trouvais que c'était une bonne idée. Mais au fil des ans, j'avais l'impression qu'on devait se plier de plus en plus à ce que l'Europe voulait et non suivre ce que nous voulions, nous, les Britanniques. J'ai de la famille en Espagne. J'ai énormément aimé vivre en Allemagne, un très bel endroit. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est l'Angleterre.
À la périphérie de la ville, autre ambiance, celle des immenses centres commerciaux à l'américaine. Marco Cereste est arrivé au Royaume-Uni avec ses parents italiens à l'âge de 2 ans. C'était les années 50, c'était eux les premiers migrants européens. Dans les années 2000, les Polonais et les Lituaniens les ont rejoints. Marco est aujourd'hui un homme d'affaires prospère. Une de ses entreprises de logistique emploie quelque 90 personnes. Et la perspective du Brexit est un cauchemar.
Je n'arrive pas à embaucher. 70% de mes employés sont européens. Et sans eux, je ne pourrais tout simplement pas continuer à faire marcher mon business. J'ai failli mettre la clé sous la porte, tout simplement parce que je n'arrivais pas à trouver de la main-d'œuvre. Et puis soudain, les Polonais sont arrivés, les Lituaniens sont arrivés. Et ils travaillent dur, et ils veulent travailler.
Les affaires ne seront plus ce qu'elles étaient, mais ce 31 janvier marque surtout pour Marco la fin d'un idéal.
Personnellement, j'ai beaucoup de mal à accepter que nous ayons brisé notre famille. J'espère qu'on ne va pas découvrir dans quelques années que ça a été une erreur terrible. Terrible erreur. Pas pour moi, je suis un vieil homme maintenant, mais pour mes enfants et mes petits-enfants, je l'espère.
Marco Cereste a été aussi maire de la ville pendant 5 ans jusqu'en 2015. Conservateur, mais anti-Brexit, il assume la contradiction. Avec ses amis anti-européens, il a trouvé une solution pour ne pas se fâcher.
Tout d'abord, on n'en parle plus, c'est un bon début. Ça ne sert à rien de continuer à discuter si c'est pour se disputer. Mais alors on n'en parle plus.
Un de ses amis, c'est justement Peter. Comme son prénom ne l'indique pas, il est né à Naples dans les années 50. Il tient aujourd'hui une des meilleures pizzerias de la ville et il croit en un bel avenir après le Brexit.
Le monde est vaste et on peut faire du commerce avec tout le monde. Regardez le Danemark, la Suède, ils sont OK. Ils ne sont pas dans la zone euro et ils s'en sortent bien. On peut faire du commerce avec les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Commonwealth. Vous croyez que parce qu'on sort de l'UE, les Européens vont arrêter de commercer avec nous? On dépend tous les uns des autres. Il y aura peut-être des ajustements techniques, mais tout va bien se passer.
Marco n'est pas sûr d'y croire, mais il va bien falloir avancer.
Aujourd'hui, il n'est plus temps de se quereller pour savoir s'il aurait fallu rester ou pas. Maintenant, la seule chose que je puisse dire, c'est faisons face ensemble et faisons en sorte que ça marche.
Il reste tout juste 11 mois pour négocier un bon accord.
11 mois pour négocier un bon accord et ce long travail de retissage des liens dans cette vieille démocratie. Philippe Marrière, pour que ça marche, il va falloir aussi que Boris Johnson rassemble. Il pourra le faire, ça, rassembler ces partis politiques qui se sont tellement divisés?
Je crois qu'il a bien compris l'enjeu et c'est l'une des premières choses qu'il est dite le soir de la victoire des conservateurs le 12 décembre dernier. Il faut effectivement rassembler un pays qui est très désuni. Et quand on dit un pays, vous savez que le Royaume-Uni évidemment est composé de différentes nations et que ces nations n'ont pas voté de la même manière. Pensons notamment aux Écossais et aux Irlandais qui ont voté contre le Brexit. Les Gallois eux-mêmes étant très égaux là-dessus. Donc effectivement, il va falloir, c'est essentiellement une histoire anglaise et au sein même de l'Angleterre, eh bien, cette micro-enquête dans le Cambridgeshire l'a bien montré. Vous avez au sein même de petites communautés, des petites communes, des villages, des amis, quelle que soit leur affiliation politique d'ailleurs, qui sont en désaccord profond sur cette question. Ça a vraiment acquis un statut, je dirais, sur le plan symbolique voire identitaire très fort, parce qu'on est au-delà finalement de mesurer l'impact du Brexit selon des critères finalement peut-être politiques ou économiques. Ça va au-delà de ça, ça devient identitaire.
Ça devient identitaire, oui, c'est ce qu'on ressent beaucoup. Accent d'Europe est en direct de l'Institut français de Londres. Marie Billon, notre correspondante au Royaume-Uni, est avec nous en studio. Vous n'êtes pas venue les mains vides aujourd'hui, Marie. Vous êtes venue d'abord nous parler de symboles et de cette pièce de 50 pence. Il y en a 3 millions qui sont mises en circulation aujourd'hui. Ça se veut un symbole de réconciliation. C'est pas l'avis de tout le monde.
Non, c'est pas l'avis de tout le monde. Et c'est vrai qu'alors il y a la version classique qui entre en circulation aujourd'hui, et puis il y a surtout la version collector. Il y en a en nickel, en argent et en or, disponible donc pour la modique somme de 10 à 945 livres, donc près de 1000 euros. Ça c'est pour ceux qui sont un peu fiers du Brexit. Et sur cette piécette, il y a écrit quelque chose de spécial. Évidemment, il y a écrit paix, prospérité et amitié avec toutes les nations, et évidemment la date du 31 janvier 2020. Mais attention, la gravure a écorché l'œil de certains puristes de la langue anglaise, puisqu'il n'y a pas de virgule entre paix et prospérité. On a oublié la virgule d'Oxford, comme on dit, et ça, ça passe mal chez certains. Les petits malins ont aussi remarqué, bien sûr, que c'est pas la première pièce commémorative, puisque l'Hôtel des Monnaies en avait déjà frappé d'autres pour les sorties précédentes qui ont été annulées, donc on a tout refondu. Ça, évidemment, ça console pas les Européens, les europhiles, pardon. Certains jurent qu'ils n'accepteront plus jamais de pièces de 50 centimes. Ils feront la petite monnaie à jamais. D'autres, un peu moins difficiles, préféreront imposer leurs pattes sur cette pièce. Ils comptent barrer le texte avec un cœur et puis deux lettres, UE, bien sûr. D'autres espèrent carrément qu'on va frapper une autre pièce avec un texte alternatif. Ils proposent le seul pays au monde à s'être auto-imposé des sanctions. Et puis bon, certains se rappellent quand même que les négociations vont être menées par un homme, Boris Johnson, dont on dit qu'il a plus ou moins joué à pile ou face pour décider s'il était pro ou anti-Brexit. Donc le symbole, il est là aussi.
Il est là aussi. C'est un sacré symbole, la monnaie, parce que ici, bien sûr, les Britanniques n'ont jamais adhéré à l'euro. Ils ont toujours gardé leur livre sterling. Et c'est une place financière de première importance pour l'Europe. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a des craintes aujourd'hui aussi fortes qu'il y en avait en 2016, Philippe Marlière, au moment du vote du référendum du Brexit?
Alors, je tiens à dire que je n'ai pas vu passer cette pièce de
Elle est
de
en
50.
Circulation voilà. Aujourd'hui,
je crois
aujourd'hui
que les,
tout juste.
Les personnes qui la détiennent la gardent pour eux. Ça devient collector, quitte à en faire après, à la revendre un prix indu, comme vous le disiez. Écoutez, la question de l'avenir économique et financier du Royaume-Uni, c'est vraiment la question, la grande inconnue. Je ne dirais pas que c'est le saut dans l'inconnu, puisque c'est un pays qui a quand même des richesses et des ressources à compter aussi politiques. Effectivement, ce qui est assez étonnant dans un pays qui finalement dont la réputation est essentiellement de tout mesurer à l'aune de critères politiques et économiques, ce qui est bon, ce qui marche, le fameux pragmatisme britannique, eh bien, il semblerait que là, pour le coup, eh bien, ce fameux pragmatisme a été jeté par-dessus bord à la mer, dans la Manche. Et finalement, on va y aller. On ne sait pas trop ce qui va se passer. On sait évidemment qu'il faudra faire des négociations avec l'Union européenne, c'est obligatoire, mais on ne sait pas. Il y a différentes versions actuellement. Est-ce qu'on restera dans le marché commun ou est-ce qu'on en sortira, etc. On ne sait pas encore.
L'autre grand sujet d'inquiétude, c'est sur le sort des citoyens européens qui vivent ici au Royaume-Uni. Ils sont 3 millions environ. À Peterborough, donc dans cette ville de l'est du pays, les Européens, c'est quand même 17% de la population. Beaucoup d'inquiétudes. Donc, qui concerne leur droit de séjour et beaucoup de travail pour l'association dans laquelle Frédéric Lebel s'est rendu.
Au croisement de Lincoln Road, le quartier des migrants, l'association Parcas s'occupe généralement des réfugiés et des demandeurs d'asile. Mais son directeur, Moez Nadou, a été chargé il y a quelques mois par le ministère de l'Intérieur de venir en aide à un groupe de résidents plutôt différents, les Européens.
Yes, there is people.
Oui, il y a des gens stressés qui souffrent d'anxiété à cause de la barrière de la langue. Ils n'arrivent pas à remplir les formulaires seuls. Et c'est pour ça que nous sommes là pour soulager leur stress et les aider, oui.
Deux personnes à temps plein et une dizaine de bénévoles. L'association reçoit par exemple la visite de mères de famille, des femmes sans emploi, des grands-parents qui ont accompagné la famille et n'ont même pas de compte en banque. La liste des cas difficiles est longue. Pour Yvetta, une bénévole de nationalité lettonne, la procédure entièrement dématérialisée exclut aussi de fait tous ceux qui n'ont aucune agilité numérique.
J'ai un monsieur qui m'a appelé. Il ne pouvait absolument rien faire parce qu'il avait un vieux téléphone portable. Il ne pouvait lire aucun message. C'est typiquement ce genre de personnes qui sont les plus vulnérables. Ils n'ont aucune information, ils ne sont pas connectés à l'application, ils ne sauront rien de la future législation. Même si on leur dit de quitter le territoire, ils ne seront pas au courant.
Be asked to leave country, but they don't know.
Officiellement, les avis d'exclusion du territoire seront rarissimes, principalement en cas d'antécédents judiciaires. Mais le négociateur en chef du Brexit, Michel Barnier, a tout de même demandé la création d'un organe indépendant. Ultime recours pour tous ceux qui se verraient seulement délivrer un titre de séjour provisoire, alors qu'ils espéraient un droit permanent. Yvetta, lettonne, vit à Peterborough depuis 12 ans et elle compte bien y rester toute la vie.
Je me sens la bienvenue ici, mais si ce n'est plus le cas dans le futur, alors peut-être que je déménagerai dans votre pays, la France, ou que je retournerai dans le mien.
Oui, c'est compliqué, hein, ces procédures de séjour, Philippe Marlière. Est-ce qu'il pourrait y avoir une main-d'œuvre qui s'en va, qui gripperait l'économie, justement, en plus de cette fuite des cerveaux dont on dit qu'elle va concerner aussi le Royaume-Uni, puisque beaucoup d'universitaires pourraient décider de partir?
C'est une question très importante, en effet, pour tous ceux étrangers, européens et au-delà qui habitent dans ce pays. On a déjà quelques chiffres, quelques tendances fortes et assez édifiantes depuis 3 ans et demi, depuis qu'a eu lieu le référendum. On s'aperçoit que l'immigration venant de l'Europe communautaire est en baisse, c'est-à-dire, comme vous le disiez, nombre d'Européens installés ici tendent à retourner chez eux. La plupart restent, évidemment, mais il y a des retours importants, notamment chez les Français également. Et par contre, il y a un flux d'immigration qui vient en dehors de l'Union européenne, qui est beaucoup plus important maintenant. Donc finalement, l'immigration n'est pas du tout en recul dans ce pays, ce qui était quand même l'une des revendications de ceux qui voulaient finalement un arrêt à l'immigration. Donc c'est plutôt une immigration qui vient hors des frontières européennes et qui est plutôt avec une main-d'œuvre peu qualifiée. Voilà ce qui remplace finalement ceux qui partent. Pour ce qui est des Européens, bien je crois que oui, effectivement, c'est le flou qui entoure la situation. Certes, il y a ce statut de résidence qu'on peut acquérir, et effectivement qui n'est pas toujours facile à avoir pour ceux qui ne sont pas numérisés, mais surtout une chose que j'ai découverte moi-même récemment, moi qui ai maintenant ce statut de résident, c'est qu'il sera valide jusqu'à le renouvellement de son passeport, de sa carte d'identité ou de son passeport. C'est-à-dire qu'alors, il faudra de nouveau repartir à zéro. Donc, vous voyez, ça crée une situation qui, effectivement, pour tous les Européens installés ici, est beaucoup moins avantageuse.
Et beaucoup d'incertitudes. Accent d'Europe, on continue avec vous, Philippe Marlière, à parler de ces inquiétudes qui subsistent. Marie Billon, vous nous amenez un autre symbole britannique, un symbole qui est peut-être menacé de disparition. Alors, c'est de la radio, vous ne le voyez pas, mais Marie est en train de poser sur la table du studio une belle portion de fish and chip. Ça explique un peu cette odeur de friture et de poisson qui flotte depuis tout à l'heure, Marie.
Ah oui, on a décidé de se parfumer à l'anglaise, hein, sauf que bon, ce poisson est presque certainement français ou européen, en fait, puisque près de 90% des poissons dégustés de ce côté de la Manche sont pêchés par des mariniers européens. Et ce qui a un peu ni queue ni tête de poisson, bien sûr, c'est que à l'inverse, les trois quarts des écailles qui se retrouvent dans les filets anglais sont exportés, principalement, bien sûr, vers l'Union européenne. Autant dire que la pêche est un grand sujet contentieux et le restera pendant ces 11 mois de négociations. C'est une question de droits de douane et de normes sanitaires, bien sûr, mais aussi de zones de pêche. Ce que les pro-Brexit veulent, c'est interdire l'accès aux Européens, aux eaux britanniques. Plus de Français donc venant pêcher le cabillaud anglais pour le ramener dans l'Hexagone et l'exporter au Royaume-Uni ensuite. Vous me suivez, hein? C'est le rêve des Brexiteurs, c'est aussi la promesse du gouvernement de Boris Johnson, sauf que les Européens ne sont pas d'accord. Ils devraient en gros proposer un échange, accès aux marchés financiers européens contre accès aux eaux territoriales britannique. Pour l'instant, c'est no, no, no de Boris Johnson, mais les pêcheurs ont peur qu'ils se retrouvent abandonnés en haute mer quand Boris Johnson se rappellera que la pêche rapporte 1 milliard de livres à l'économie britannique contre 132 milliards pour le secteur financier.
Je voudrais que vous nous montriez le dernier symbole que vous nous avez apporté, c'est un poireau.
Oui, un légume éminemment britannique. Hein. Alors, on ne fait plus comme les Gallois, on ne se met plus sur la tête pour se reconnaître sur les champs de bataille, mais les Brexiteurs l'ont quand même brandi comme une arme contre ce qu'ils appellent le pessimisme des Remainers. Alors, le pays n'exporte qu'une toute petite partie de ses nombreux leaks, comme on dit en anglais. Il garde la plupart et mange la plupart. Alors, si jamais le pays devrait devenir autosuffisant, le poireau pourrait sauver les Britanniques de la disette. Bon, on exagère un petit peu, hein, mais le Royaume-Uni importe quand même 30% de la nourriture qu'il consomme en général. Les producteurs de poireaux font donc fi des possibles droits de douane. Deal ou no deal, c'est pas vraiment un souci pour leurs troupes, car le poireau est facile à cultiver, il pousse en hiver. L'association des producteurs britanniques dit que ce serait facile d'augmenter la production.
Et on pourra faire des recettes, c'est ça, les préparatifs pour un Brexit réussi, des recettes pour l'autosuffisance à base de poireaux, Philippe Marlière, en un mot.
Je ne sais pas si ça sera très populaire dans une ville comme Londres, si ouverte à toutes les gastronomies et cuisines internationales. Je crois que les Londoniens et les Britanniques pur sucre sont habitués à cela. Donc je crois que ce sera difficile d'avoir une cuisine en autarcie.
Merci Philippe Marlière, professeur de sciences politiques à l'université UCL dans Accent d'Europe. Émission exceptionnelle à l'Institut français de Londres. Merci à Boris Vichit, à Benjamin Availlou et à Françoise Grelot à la réalisation. RFI reste à l'heure du Brexit jusqu'à demain.